le magazine des Nations Unies.
Bonjour à tous, le magazine de ce dimanche s'ouvre sur le rapatriement de près de 10 000 anciens réfugiés angolais en 3 mois. 12 000 autres ont opté pour une intégration en RDC. Ce sont là les conclusions de la 8e réunion tripartite RDC-HCR Angola tenue à Kinshasa. Les détails dans un instant. Et puis cette nouvelle stratégie de ONU Femmes, cette année l'agence onusienne veut impliquer les garçons en particulier et les hommes en général dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes. ONU Femmes lance une campagne de sensibilisation de 16 jours pour dissuader les auteurs de ces violences. La représentante de cette agence en RDC nous en dira plus dans Décryptage. Dernier titre dans cette édition, la Banque mondiale soutient la croissance dans la région des Grands Lacs. Une délégation de cette institution de Bretton Woods s'est rendue la semaine dernière à Kalemi, au nord Katanga, pour s'assurer des préparatifs d'un grand projet incluant aussi le Burundi. Nous aurons le chef de la délégation comme l'invité de cette émission.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Merci de nous suivre à Kinshasa où s'est tenue cette semaine la 8e réunion tripartite RDC-Angola-HCR. C'était du 24 au 26 novembre à propos du rapatriement volontaire des anciens réfugiés angolais vivant encore sur le sol congolais. Près de 10 000 d'entre eux ont été rapatriés jusqu'au 19 novembre dernier sur environ 38 000 vivant encore sur le sol congolais. En revanche, 12 000 cartes de séjour temporaires ont été octroyées à ceux qui étaient candidats à l'intégration locale. Jean-Pierre Elali Coco nous fait revivre l'événement. Suivez son reportage.
La 8e réunion tripartite RDC-HCR Angola s'est clôturée mercredi dernier sur une note plutôt mitigée. Le rapatriement volontaire n'a été que des 9 700 anciens réfugiés jusqu'au 19 novembre sur environ 38 000 vivant encore en République démocratique du Congo. Ce qui représente, selon les experts des trois parties, un taux de 26%. Ce faible taux de réalisation se justifie par plusieurs contraintes, telles qu'elle explique Mme Berthe Zinga Ilunga Mukundi, secrétaire permanent de la Commission nationale pour les réfugiés.
Ce faible taux de réalisation est consécutif à plusieurs contraintes rencontrées pendant le rapatriement, notamment administratives, liées aux ressources humaines, logistiques et climatique, occasionnant la détérioration des infrastructures routières et ferroviaires.
Malgré ces constats, les trois parties, à savoir les délégations de la RDC, de l'Angola et du HCR, ont affiché leur détermination et leur responsabilité de continuer le processus de rapatriement volontaire d'anciens réfugiés angolais. Richard Mouyege, ministre congolais de l'Intérieur.
J'en appelle à la responsabilité des uns et des autres pour que les engagements que nous venons de prendre soient respectés en tenant compte des contraintes rencontrées, des défis à relever et du faible taux de réalisation par rapport aux objectifs assignés. Pour sa part, le gouvernement de la République démocratique du Congo renouvelle sa disponibilité et sa détermination à traduire en actes les décisions et toutes les recommandations des présentes assises afin de permettre à tous les anciens réfugiés angolais, candidats au retour, de rentrer dans leur pays dans des conditions de sécurité et de dignité.
Enfin, les représentants régionaux du HCR ont insisté sur la mise en place d'un cadre légal pour les anciens réfugiés. Stéphane Séveret.
Il est fondamental que d'ici la fin des opérations du rapatriement et de l'intégration locale, nous puissions laisser à ces populations un cadre légal et de procédures effectives pour que leurs droits puissent être respectés et consolidés, ainsi bien qu'en Angola que dans leur pays de séjour.
Les parties ont convenu de la tenue de la prochaine réunion en Angola. C'est à la fin de l'opération de rapatriement, à une date qui sera communiquée.
Autre actualité cette semaine, 236 cas de violation des droits de l'homme ont été recensés en octobre dernier en République démocratique du Congo, selon un rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, le BCNUDH. Le document publié mercredi 25 novembre à Kinshasa affirme que le pays a connu une hausse assez significative des violations des droits de l'homme au cours de ce mois. Qui en sont responsables? Aziz Abdelaziz Thioye, il est directeur au BCNUDH, il répond au micro de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Les militaires de la FARDC auraient été responsables de 58 violations, tandis que les agents de la PNC, 57 violations. les combattants des groupes armés, tous confondus, ont été responsables de 111 violations au mois d'octobre 2014. Parmi les groupes armés, les combattants des forces alliées démocratiques, ADF en sigle, auraient été les principaux auteurs de violations des droits de l'homme.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Mardi dernier, la communauté internationale a célébré, comme à chaque 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. À cette occasion, ONU Femmes, ainsi que toute la famille des agences des Nations Unies, a lancé à Kinshasa la campagne He for She, en français Lui pour Elle, un mouvement de solidarité pour l'égalité des sexes dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes en RDC. La campagne durera 16 jours. Madame Françoise Ngendayo, représentante d'ONU Femmes en RDC, revient ici sur l'objectif et la portée de cette sensibilisation. Elle répond aux questions de Jean-Pierre Elali Koko.
Madame Françoise, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes représentante de ONU Femmes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et vous venez de lancer, au nom du secrétaire général de l'ONU, la campagne He for She, c'est-à-dire Lui pour Elle. Quel est alors, madame, l'objet de cette campagne que vous venez de lancer?
La campagne que nous venons de lancer maintenant est une campagne de la directrice, lancée par la directrice exécutive d'ONU Femmes, madame Pumzile, mais elle s'inscrit en ligne directe avec celle lancée il y a quelques années par le secrétaire général des Nations Unies qui s'appelle United. Donc, c'est dans ce cadre que nous avons lancé la campagne initiée par la directrice exécutive des Nations Unies.
Et l'objectif de cette campagne particulièrement?
L'objectif principal est d'impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans l'élimination de toute violence faite aux femmes. Il a été constaté que malgré des efforts consentis, la réponse n'a pas suivi les moyens investis, ainsi qu'elle a décidé d'inspirer le monde pour changer de stratégie en impliquant les hommes, qui doivent comprendre que ce n'est pas une question de la femme. Ce n'est pas une question qui doit être nécessairement et uniquement traitée par la femme. C'est une question de la société, c'est une question des droits de l'homme, c'est une question du quartier, c'est une question des hommes et des garçons qui normalement ne font pas part à cette plaidoirie.
Donc je voulais impliquer les hommes parce que parmi les hommes, il y a des auteurs de crimes ou des auteurs de violences sexuelles, c'est ça exactement?
Oui, bon. Quand on dit qu'il y a des violences sexuelles, en général, ce sont les hommes. Mais c'est que, on va dire, au-delà des auteurs, parce que tout le monde n'est pas auteur, au-delà des auteurs, il y a des hommes et des garçons de bonne foi qui peuvent s'investir pour dissuader les autres, ou les empêcher, ou même les parler des punitions possibles. Et nous croyons que les hommes, peut-être, auront les meilleures oreilles pour leurs collègues hommes qui leur disent, voilà, assez, c'est assez.
Parlons maintenant de la campagne elle-même. Mm-hmm. Comment l'ONU Femmes et d'autres agences des Nations Unies comptent mener cette campagne? Quelles sont les différentes activités qui sont prévues pour cette campagne?
Et comme vous le savez bien, que ce soit ONU Femmes ou les autres agences des Nations Unies, nous sommes des accompagnateurs du gouvernement. Nous accompagnons la société civile, nous accompagnons les communautés. Ça veut dire que nous soutenons ce qui existe. Nous pouvons être des catalyseurs, mais en général, nous soutenons. Alors c'est dans ce cadre que nous avons insisté dans notre présentation que c'est un acte d'engagement. Ce n'est pas un acte d'engagement d'ONU Femmes. ONU Femmes s'est engagée à faire la campagne. Mais les activités vont être menées par les gens qui se seront engagés pour mener cette campagne.
Quelles sont ces activités, par exemple?
Ça veut dire, au niveau des écoles, au niveau de l'université, un groupe de jeunes hommes décide plus jamais les violences envers les filles de notre université alors que nous le voyons. Nous allons nous-mêmes décider, nous allons nous-mêmes dissuader les collègues, nous allons nous-mêmes attraper les collègues s'ils le font, et nous allons nous-mêmes sensibiliser les filles, les jeunes filles à bien se protéger, et nous allons nous-mêmes dénoncer les coupables.
Donc, madame, mais ça demande aussi un appui. Est-ce que ces jeunes-là qui vont faire cette campagne-là, ils seront appuyés par l'ONU Femmes, par exemple? Un appui peut-être technique ou même logistique?
à part les outils de sensibilisation que nous pouvons donner, on veut que c'est vraiment l'engagement. Quand on est engagé, le meilleur outil, c'est la langue, c'est la plaidoirie, c'est la conviction et c'est l'action, sans compter de l'humiliation. Alors, une fois que ces actions sont visibles, une fois qu'on a tel résultat, alors c'est en cours de cet élan que nous allons peut-être décerner ceux qui auront mieux fait et essayer d'en parler peut-être, je ne sais pas, l'oreille, la plaidoirie par autre chose. Ça peut être une reconnaissance par Nations Unies, ça peut être une reconnaissance par l'uniforme, ça peut être une reconnaissance par le gouvernement aussi.
Et pourquoi le choix de la couleur orange?
Et la couleur orange a été choisie en qualité d'une couleur historique qui exprime la non-violence.
Que même au niveau de la conférence de presse, on a parlé des causes structurelles et même des causes conjoncturelles. Et je parle ici par exemple de la relation entre la pauvreté et les violences. Et madame, est-ce que vous avez une thérapeutique appliquée pour essayer un peu d'arriver à mettre fin ou même à lutter contre ces causes structurelles?
Et le premier acteur à lutter contre la pauvreté dans le Congo, le premier acteur, c'est le gouvernement envers sa population.
Vous l'appuyez?
Nous les accompagnons, mais aussi c'est la société civile au niveau des communautés. Ce sont les personnes elles-mêmes qui vont faire leur plaidoirie, qui vont prendre leur vie en main. Ça veut dire ne pas trop et tout attendre du gouvernement aussi. Il y a les petites activités. Vous voyez, les femmes au marché. Personne ne leur a enseigné qu'il faut aller au marché vendre les tomates ou les bitekotekos. Personne ne leur a dit ça. Un jour, ils ont développé un instinct de survie. Ils se sont mis sur le marché. Et ils nourrissent les familles. Ils paient les enfants pour aller à l'école. Alors, c'est dans ce cadre que nous croyons que la détermination, c'est quelque chose d'irremplaçable. Une fois qu'on est déterminé, on peut tout faire.
Alors, madame, pour terminer, vous avez un message particulier à lancer aux jeunes filles, aux femmes congolaises et même aux hommes à l'occasion de cette journée.
Aujourd'hui, j'ai un message pour les hommes et les garçons. Le message est le suivant. Ne restez pas insensibles aux violences faites aux femmes. Ce sont vos sœurs, ce sont vos mamans, ce sont vos filles, ce sont vos nièces, ce sont vos tantes. Ne laissez pas insensibles. Dissuadez les autres hommes, dénoncez les autres hommes qui ont fait et prévenez pour que ce mal ne soit pas fait.
Madame Françoise, je rappelle que vous êtes représentante de l'ONU Femmes en République démocratique du Congo et je vous remercie.
Merci beaucoup aussi pour la question.
En bref, dans ce magazine, une trentaine d'experts en développement et des concessions forestières des communautés locales ont discuté mercredi dernier à Kinshasa du développement des forêts communautaires à vocation gestion durable de la faune. Les experts ont examiné la possibilité d'utiliser le cadre réglementaire et technique applicable aux concessions des forêts. Cet atelier s'inscrivait dans le cadre du projet intitulé « Gestion durable de la faune sauvage et du secteur de la viande de brousse en Afrique centrale », un projet financé par le Fonds mondial de l'environnement et dont la mise en œuvre est coordonnée par la FAO. Sur le plan humanitaire, le coordonnateur de l'action humanitaire en RDC a condamné mercredi dernier le meurtre d'un agent humanitaire au Nord Kivu. Ce dernier est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés sur l'axe Bunagana-Burayi dans le territoire de Rutshuru. Mustapha Soumaré a indiqué que cet acte n'affectera pas la détermination et l'engagement de la communauté humanitaire envers les populations vulnérables. La communauté humanitaire qui reste préoccupée par l'insécurité persistante au Nord Kivu. La semaine dernière, les membres d'une ONG internationale et d'une autre locale sont tombés dans des embuscades tendues par des coupeurs de route, bilan une personne tuée. Enfin, cette bonne nouvelle, 63 400 élèves et leurs enseignants seront nourris dans des cantines scolaires dans 261 écoles au cours de l'année scolaire 2014-2015 au Katanga. Selon OCHA, le programme alimentaire mondial PAM va distribuer mensuellement environ 248 tonnes de vivres et ce, à partir du mois de novembre. Pour cette année scolaire 2014-2015, les 6 territoires de Kalemi, Malembankoulou, Manono, Mitwaba, Moba et Pweto, affectés par les conflits et violences armées, sont ciblés pour cette aide alimentaire scolaire d'urgence dont le but est de maintenir les enfants à l'école.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Une délégation de la Banque mondiale a achevé le week-end dernier son séjour de travail à Kalemi. L'objectif était d'assurer le suivi des préparatifs du programme régional de croissance dans la région et d'identifier la dimension régionale du projet au Burundi et en République démocratique du Congo. Lors de sa troisième mission dans le district du Tanganyika, le chef d'équipe et chargé de projet à la Banque mondiale, Amadou Oumarba, a répondu aux questions d'Amoury Aleka depuis Kalemi. Suivez leur entretien.
Monsieur Amadou Oumarba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de projet et chef d'équipe en charge du préparatif du programme régional de croissance agricole dans le Grand Lac au sein de la Banque mondiale.
Exact.
En quoi consiste concrètement ce programme dans le Grand Lac, Monsieur Amadou Oumarba?
Voilà, comme dit, nous sommes une équipe de la Banque mondiale composée de différents experts qui sont ici dans le cadre de la préparation d'un projet de croissance agricole dans la région des Grands Lacs. Ceci est une mission de préparation. Elle a débuté, en fait, il y a presque un an. Nous sommes à la troisième mission ici à Kalemi, dans le cadre d'un précédent projet de développement de pôle de croissance agricole à l'est du Congo, lequel, entre-temps, a évolué en un projet régional qui concerne les pays des Grands Lacs. Nous sommes venus dans cette troisième mission non seulement pour poursuivre la préparation du projet, mais également pour identifier la dimension régionale du projet. Et ce projet concerne pour l'instant le Burundi et la RDC. Nous avons commencé la mission au Burundi. Nous l'avons poursuivie dans la partie sud Kivu du corridor qui est concerné par le projet. Et nous la terminons aujourd'hui à Kalemi. Et la zone d'intervention du projet pour la partie RDC se limite dans le corridor Bukavu, Uvira, Kalemi.
Et quelles sont les actions spécifiques par rapport à ce projet?
Alors, ce projet vise à accroître la productivité agricole de certaines filières qui seront sélectionnées dans cette zone d'intervention en vue d'augmenter les revenus des communautés qui y sont impliquées. Il va s'intéresser dans un premier temps à trois filières principales qui ont été retenus, c'est la filière riz, la filière élevage, particulièrement la soufrière lait, et bien entendu la filière pêche, compte tenu du lac Tanganyika, qui quand même regorge de ressources halieutiques. Ce projet va se mettre en œuvre selon trois composantes. Une première composante, qui traite de la structuration des filières agricoles qui seront retenues. Donc, qui va promouvoir le développement de ces filières selon une approche de chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on va traiter chacune de ces filières de la production jusqu'à la commercialisation et distribution en passant par la transformation, le stockage, le transport. Ça, donc, tous les maillons de la chaîne de valeur d'une filière donnée. Et naturellement, pour y arriver, il y a un certain nombre d'interventions qui seront nécessaires, qui vont naturellement de l'appui à tout ce qui est recherche, développement et vulgarisation pour des innovations technologiques dans l'agriculture. Il y a aussi toutes les interventions qui sont liées à la structuration des organisations de producteurs pour leur permettre de s'apprêter à participer à la promotion des filières. Il y a aussi des investissements physiques tels que l'irrigation, l'énergie, les routes de desserte agricoles qui sont liées au développement de ces filières, mais également des centres de stockage et de transformation éventuels. Tout bien même qu'il y a d'autres investissements qui peuvent intéresser d'autres activités qui ont un lien direct avec le développement de ces filières. Ça, c'est la première composante. La deuxième composante, grosso modo, concerne la gestion et la prévention des conflits. Nous sommes dans une zone de post-conflit, dans un environnement où les conflits sont récurrents, et aussi le développement territorial. Cette composante se décline en trois sous-composantes ou activités principales, notamment celle de tout ce qui est lié à la prévention des conflits, utilisant les mécanismes déjà existants ici et ailleurs pour réduire les conflits dans la zone, apaiser la situation pour permettre aux populations de participer au développement des filières. De même que le traitement de la question foncière, réguler la question foncière, faciliter un accès durable et sécurisé au foncier pour les investisseurs. Deuxième sous-composante consiste à la gestion durable de l'environnement. Donc, notamment par la sécurisation des investissements qui auront été réalisés, mais également le traitement des bassins versants pour éviter que les investissements du projet contribuent davantage à dégrader l'environnement. De même que la protection, par exemple, du lac Tanganyika, qui est une ressource partagée entre différents pays, que la protection d'aires protégées communes.
Actuellement, le programme concerne le Burundi et la RDC, mais la sécurisation du lac Tanganyika englobe les autres pays comme la Tanzanie et la Zambie. Malheureusement, vous ne les incluez pas. Donc, comment comprendre cela, monsieur Omar ?
Pas pour l'instant, mais ils peuvent arriver. Le projet est régional. Pour l'instant, on a commencé avec les deux pays qui sont prêts à y adhérer. Donc, le Rwanda pour rejoindre, il est en train de réfléchir à comment rejoindre le projet. La Tanzanie également est en train d'être approchée. Donc c'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative régionale des Grands Lacs qui a été lancée l'année dernière lors de la visite du secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon et du président de la Banque mondiale Jim Kim, qui ont fait une visite ici l'année dernière. Notamment, pour l'instant, ce projet va être planifié sur 5 ans, mais c'est un programme, ce n'est pas un projet. Vous vous rappelez que le président de la Banque mondiale avait lancé cette initiative en disant que la banque mettrait à la disposition de ces pays un montant jusqu'à 1 milliard de dollars pour contribuer au développement des Grands Lacs, à la stabilisation de la paix et insuffler un développement économique plus durable pour faire décoller cette région. Et pour l'instant, ce projet que nous préparons entre les deux pays, Burundi et RDC, est à hauteur de 225 millions de dollars. Donc c'est presque le quart du milliard annoncé qui est déjà en train d'être préparé.
Est-ce que ce montant est déjà disponible ?
Non, je vous dis qu'on est en préparation, donc c'est pas vrai. Nous sommes en train de préparer ce projet. C'est une mission de préparation qui va se poursuivre. Le délai dans lequel nous nous sommes engagés, c'est d'arriver à terminer cette phase de préparation d'ici décembre 2015 et de présenter le projet au conseil d'administration de la Banque mondiale pour approbation. Donc le projet ne démarrera pas avant 2016, les activités en tant que telles.
Est-ce que ce programme est réaliste, faisable, monsieur Amadou, dans le plus bref délai ?
Ce qui le garantit, notre présence, non. Nous sommes là pour le préparer. Le financement est disponible parce que la banque l'a mis à disposition. La préparation a démarré avec une équipe d'experts de la Banque mondiale et d'autres organismes comme la FAO qui nous appuient. Et le gouvernement congolais et le gouvernement burundais ont mis également à disposition des experts, des équipes de préparation de projets pour aider à préparer ce projet. Donc nous sommes dans un processus, il n'y a pas de raison de douter qu'il sera fin prêt dans un an et qu'il pourra commencer à décaisser.
Monsieur Amadou Omar Ba, merci.
Je vous remercie aussi.
Restons à Kalemie où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a présidé mercredi dernier à la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies au casque bleu béninois. La manifestation s'est déroulée à la place Maindeleo en présence des autorités civiles et militaires du district du Tanganyika. Retrouvons les temps forts de cette cérémonie avec François-Xavier Mibé dans ce reportage.
La cérémonie a ciblé 450 casques bleus béninois du 8e bataillon de la MONUSCO déployé depuis 9 mois au nord Katanga. Ils mènent des activités de protection des civils dans les secteurs de Bendera, Kalemi, Kongolo, Manono et Moba. Une équipe réduite se retrouve aujourd'hui déployée de manière temporaire à Kabalo, à 300 km à l'ouest de Kalemi. Des centaines de patrouilles terrestres, des milliers de patrouilles motorisées et d'autres dizaines de patrouilles mécaniques, auxquelles s'ajoutent des patrouilles conjointes avec des FRDC, figurent parmi les principales activités ayant marqué l'engagement du 8e bataillon de casque bleu béninois au cours de cette période. Le colonel Martin Soma.
Le 8e bataillon béninois de la MONUSCO a participé à la réalisation d'actions civilo-militaires, dont entre autres la réfection de la prison civile de Moba et de Kongolo, la construction de la prison civile de Manono, actuellement en cours.
Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies a exprimé le vœu de voir les casques bleus béninois poursuivre le même partenariat avec d'autres organes pour assurer la sécurité des populations dans la région. Martin Kobler.
cette comparation, cette fraternité avec la PNC, avec les FRDC, je crois, c'est le secret d'améliorer la stabilité. L'autre pilier, ce sont les civils.
Un défilé militaire a clôturé cette cérémonie. De la place Mandeléo, François-Xavier Mivet, Radio Capi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
La question de ce dimanche concerne le chef rebelle FRPI Cobra Matata. Vous suivrez aussi la réponse du porte-parole militaire de la MONUSCO, le colonel Félix Sobas.
Hakim Kombo, pour les comptes de Canal King Télévision. Ma question s'adresse au colonel Félix Sobas. Colonel, dites-nous dans quel état de santé se trouve le chef milicien d'FRPI Cobra Matata, parce que les informations que nous avons ce matin font état d'un accident de circulation auquel il a été victime hier pendant la mi-journée, non loin du quartier général de la MONUSCO à Bounia.
Sans pour autant être médecin, ce que j'en sais, c'est que Cobra Matata a effectivement eu un accident hier soir parce qu'il était au volant d'un véhicule, mais il semblerait que seuls des dommages matériels ont été enregistrés. Et je pense qu'il se porte bien.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Nana Bonnejoie. Nana Bonnejoie et Léomoto. Je suis mariée, mère de 3 enfants, dont des jumeaux. Alors, j'ai fait les humanités littéraires. J'ai étudié pour les études supérieures. J'étais à l'IFACIC, l'Institut Facultaire des Sciences de l'Information et de la Communication, où j'ai un diplôme de journaliste en graduat et une licence. J'ai une licence sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sinon, comme expérience professionnelle, je suis animatrice radio et productrice à Radio Capi depuis 10 ans aujourd'hui. Ça fait beaucoup, mais j'aime bien. Mes tâches quotidiennes, j'anime la tranche au Capi Soir qui passe sur nos antennes, sur la radio de la paix. Alors, les tâches au quotidien, d'abord présenter l'émission. C'est une émission qui est essentiellement informative, dans laquelle on a des éditions des journaux en langue nationale, une édition de journal en français, des synthèses de l'actualité internationale et africaine, des informations qui nous viennent des provinces. Et donc, je produis moi essentiellement la chronique congolaise de l'étranger, qui est en fait une vitrine pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger. On leur donne cet espace-là pour s'exprimer, pour parler des choses qui les concernent, eux qui vivent à l'étranger, mais qui s'intéressent toujours à leur pays d'origine, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Comme expérience professionnelle, je l'ai dit, ça fait 10 ans que je suis à Radio Capi. Avant d'être ici, j'ai travaillé 2 ans dans une radio communautaire, Radio Réveil FM. J'ai encore travaillé à Radio FM pendant 2 ans aussi. Et puis maintenant, la grande expérience, c'est ici à Radio Capi, où j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mon temps libre, j'aime bien le sport, même si je dois dire vrai, je n'en pratique pas beaucoup. J'adore la natation. La marche un peu moins, mais bon, il faudrait que je m'y mette, il paraît que c'est bien pour la santé. Concernant la musique, j'aime toute la musique, toutes les musiques, particulièrement la musique de chez moi, de l'Équateur. Et sinon, je n'ai pas vraiment de préférence. J'aime tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, qui fait danser, qui fait bouger. Ce que j'apprécie moins, c'est le techno. Et puis ça j'aime pas, et puis le rock and roll, c'est pas mon truc du tout. Comme repas, je suis une grosse bouffeuse, j'adore manger. J'aime tout ce qui est bon, ce qui est bien préparé. Je sais que notre pays est très riche du côté culinaire. Je mange tout, j'aime bien. Et j'aime aussi la cuisine européenne, j'aime découvrir et tout ça. J'aime les restaurants, la musique, les sorties entre amis, collègues, j'aime bien. J'aime aussi passer évidemment du temps avec mes enfants qui sont adorables et mon mari. Et donc disons que je sais faire la part des choses entre la vie de famille, la vie de mère, la vie professionnelle. Les perspectives d'avenir après la MONUSCO, j'aimerais franchement rester dans le domaine des médias, essentiellement la radio, parce que c'est ce que j'aime le plus. Sinon, pourquoi pas ailleurs aussi, dans les relations publiques, dans le journalisme. C'est ça mon domaine de prédilection, et puis donc voilà. Mais j'espère un meilleur avenir, voilà.
magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Et cette semaine, toute l'attention est focalisée sur les 15 ans de la MONUSCO. Vous savez que par la résolution 1279 du 30 novembre 1999, le Conseil de sécurité avait créé la MONUC, devenue par la suite MONUSCO. À l'occasion de ce 15e anniversaire, la division de l'information publique de la MONUSCO organise une série d'activités commémorative et d'échanges sur les perspectives d'avenir de la mission, ainsi qu'une réflexion objective sur le travail de la MONUSCO. Votre magazine s'engage à vous faire vivre les importants moments de cet événement. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission qui a été supervisée par Léonard Moulamba et coordonnée par Jean-Pierre Elalie Coco. Lydie Bessina était à la présentation et Sylvain Matundu à la mise en onde. L'émission est à réécouter sur notre site internet radiookapi.net. Merci de votre fidélité et à la prochaine.